en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Décrypteur du chemin de l'homme d'aujourd'hui. C'est en ces termes que Mgr Beau, directeur du Collège des Bernardins, évoque René Girard de l'Académie française. Professeur émérite de l'Université de Stanford et père de la théorie mimétique, René Girard a également été le premier titulaire de la chaire du Collège des Bernardins. Le 30 et 31 novembre 2009, il quittait cette chaire à l'occasion d'un colloque international sur la relation franco-allemande. Dans cette retransmission enregistrée dans le haut cadre de la pensée qu'est le Collège des Bernardins, l'académicien livre ses réflexions sur l'Europe d'aujourd'hui. Même s'il vit aux États-Unis depuis de nombreuses années, il reste un Européen de vieille souche, selon ses propres mots. Répondant aux questions de Benoît Chantre, président de l'Association pour les recherches mimétiques, René Girard aborde des sujets tels que la religion, l'écologie ou encore le rayonnement culturel européen. Pour commencer ce dialogue, René Girard nous éclaire sur la vision que les Américains ont de l'Europe.
Beaucoup d'Américains ont l'impression que l'Europe est en train de se retirer de l'histoire, ou que de gré ou de force, désormais, ne jouera plus le rôle qu'elle a joué dans le passé. Lorsqu'on vit aux États-Unis, il est très difficile de ne pas être influencé jusqu'à un certain point par cette attitude devant l'attitude des États européens ou devant la façon dont ils continuent à poser des problèmes qui sont devenus minuscules par rapport aux enjeux de l'époque actuelle, n'est-ce pas ? Mais je parle ici d'une impression subjective qui est la mienne, n'est-ce pas, et qui n'est peut-être pas juste, qui est trop influencé par le climat où je vis, qui est le climat de la presse, de la télévision américaine, de l'opinion américaine, du point de vue américain, de l'optimisme américain surtout, qui est très réconfortant par rapport à l'attitude européenne, mais qui ne nous convainc pas, les Européens de vieille souche, tels que moi.
On évoquait tout à l'heure les modèles à suivre devenus invisibles. L'esprit de la réconciliation franco-allemande en est-il un ? Y a-t-il, selon toi, une fin de la foi européenne au sein du couple franco-allemand ? Où est-ce qu'elle demeure ? Quelle est ton opinion là-dessus ?
Dans tes textes, dans ce colloque, on pose la question que tu viens de poser, celle de savoir si la foi en l'unité européenne est en train de péricliter ou de... Et ça, je dirais, ça m'inquiète beaucoup parce que moi, j'avais l'impression qu'elle tenait le coup parce que la situation ne s'était pas améliorée de telle façon qu'elle rendait inutile la réconciliation européenne. Une Europe unie est une puissance extraordinaire sur le plan de l'intelligence, des réserves de savoir devenues beaucoup moins importantes sur le plan du pouvoir. Mais il est bien évident que sur le plan du savoir, elle reste absolument essentielle. Et il est fâcheux de voir que des vieilles querelles, malgré tout, ne s'expriment pas aussi directement qu'elles le faisaient jadis, mais on les sent sous-jacentes au rapport entre les États. Et que faudrait-il faire pour persuader les gens qu'elles sont totalement démodés et qu'il faut les oublier au plus vite, n'est-ce pas ? Je ne sais pas.
À la question de savoir comment élargir l'esprit de la réconciliation, tu nous répondais il y a quelques jours, lorsque nous avions cette discussion avec Philippe Herzog, tout de suite, spontanément, sacrifier l'arrogance française.
Oui, je pense qu'il y a, et il faudrait le reconnaître plus souvent en France, il y a en Allemagne une bonne volonté essentielle, qui est là et qui est présente et qui est manifeste quand on parle à des Allemands raisonnables et qui ont une connaissance de la situation actuelle. Je pense qu'ils ont plus conscience des dangers de notre époque que nous-mêmes, parce que ces dangers, ils les ont vécus de façon encore plus violente que nous. Et Dieu sait si ces problèmes n'ont pas manqué de violence dans les 50 dernières années qui ont été là. Par conséquent, je crois qu'il faut cultiver à tout prix cette espèce de sentiment de solidarité entre les hommes aujourd'hui qui sont tous menacés. Ce qu'il y a de bon dans les armes dont on parlait tout à l'heure et dont on n'a peut-être pas assez parlé ici, parce qu'elle joue effectivement, comme le disait Jean-Pierre, un rôle énorme dans la situation telle qu'elle se présente à nous. Eh bien, je pense qu'on ne fait pas assez attention à la différence des temps, au fait qu'aujourd'hui, certaines choses sont devenues tout à fait impossibles, qui restaient encore partiellement ou totalement possibles il y a 20-30 ans. Et ce sera de plus en plus vrai. Et d'autre part, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que nous ne savons pas quelle est la situation véritable. Les gens qui s'occupent de la Terre, des animaux, des plantes, de la vie sur la Terre, savent que les événements se précipitent. Autrement dit, que les espèces vivantes, aujourd'hui, disparaissent de plus en plus vite. On estime en ce moment la disparition des espèces vivantes sur la Terre à 6 par jour. Mais on sait que c'est un chiffre qui est beaucoup plus grand que ce qu'il était il y a 50 ans. Il y a 50 ans, il était plus grand que ce qu'il était il y a 100 ans. Et on est à peu près certain que dans 10 ans, dans 50 ans, il sera beaucoup plus grand. Et quel est le degré de tolérance de la planète? Quelle est la situation réelle? Il me semble que c'est une tâche que les États devraient entreprendre ensemble. Une étude approfondie de ce qu'il faut faire pour interrompre une espèce de course à l'abîme qui est celle de la planète Terre. Aujourd'hui, nous savons que le plus terrible dans la situation actuelle, c'est que nous mettons à mal la planète qui nous porte et sans laquelle nous ne pouvons pas vivre. Mais nous ne connaissons pas les chiffres exacts. Nous savons qu'il y a des gens qui s'occupent de ça sans arrêt, mais très peu de moyens financiers sont mis à la disposition de ceci comparé aux moyens des systèmes de défense nationaux, des armements divers, etc. Et par conséquent, là, il devrait y avoir une action réellement populaire pour exiger des mesures plus radicales face à la situation où la Terre se trouve en ce moment. Peut-être pas, mais enfin, les signes vont tous dans le même sens, une aggravation de ce qui rend, de ce qui menace la vie sur notre planète.
Comment est-ce que l'Europe peut aujourd'hui, sur quelle base, sur quelles ressources, se ressaisir du religieux de manière générale, du christianisme de manière plus précise, dans des temps où elle partage son espace avec l'islam, avec des sagesses orientales?
C'est un problème d'autant plus grave que nous ne sommes pas d'accord sur ce problème, que beaucoup de gens diraient que le religieux est responsable de la situation et non pas un remède, mais est le mal lui-même. Alors, comment faut-il réagir à cette situation? J'avoue que je n'ai pas de recette. Personnellement, je pense que le religieux est indispensable à toute mise en œuvre d'efforts véritables pour résoudre les problèmes qui se posent aujourd'hui. Mais l'essentiel, peut-être, ce qui peut unir les hommes, c'est de leur montrer qu'ils sont tous solidaires dans la défense de la planète et que ce n'est pas telle ou telle région qui est particulièrement menacée, qu'aujourd'hui, c'est la planète tout entière. Que la fonte des glaces n'est pas le problème du Groenland seulement, mais c'est le problème de l'univers entier. Et il en va de même pour tous les autres aspects de la situation écologique actuelle. Mais j'ai l'impression qu'en Amérique, on est quand même plus près à voir cet aspect global de la situation qu'en Europe. Moi, j'aurais tendance à dépasser l'Europe et à parler du monde entier, n'est-ce pas? Parce que si la planète entière, l'humanité entière n'est pas impliquée dans l'affaire, il sera impossible d'obtenir une action commune. Ce qui est très difficile, au fond, c'est d'inquiéter les gens. C'est de leur faire prendre conscience qu'il y a un danger qui est là, qui s'aggrave tous les jours et qui n'est pas limité à une région du globe, mais qui est absolument partout. Par conséquent, à mon avis, c'est de ce côté-là que doit porter la propagande, d'abord.
Mais Mais
là-dessus, pas l'appeler propagande.
Là-dessus, Jean-Marie Pelt nous a bien alerté. Le drame de l'écologie, c'est qu'elle produit du spectacle. Elle ne cesse de nous produire aujourd'hui des spectacles de terres en déshérence et de terres qui meurent. Ça ne fait pas peur, ça. Alors, comment faire peur? Est-ce que ça n'est pas précisément le thème apocalyptique qui est là un rendez-vous avec l'esprit du monde?
Non, mais cette situation se répandra partout. Il est bien évident que les hommes finiront par avoir peur. Il faudrait précipiter cette peur. Mais par définition, les politiciens, les gens, les leaders de toute espèce dans le monde reculent devant les discours qui ne sont inévitablement ne seront pas populaires et ne présentent aux hommes que des tâches difficiles, terribles, qui risquent de diminuer leur niveau de vie et qui n'auront pas de résultats rapides. Par conséquent, c'est très difficile.
Démographie et écologie. Seule la Chine a pris conscience de la nécessité de limiter la course démographique pour pouvoir produire des richesses pour tous. L'Europe et les États-Unis, l'Inde et l'Afrique ne se posent pas la question démographique et les remèdes aux problèmes écologiques en souffrent.
On peut dire que c'est vrai, n'est-ce pas, qu'il est évident que les États reculent devant les problèmes de ce type, et on comprend très bien pourquoi, mais ça ne va pas au-delà.
Vous venez d'écouter René Girard de l'Académie française. À l'occasion d'un colloque international sur la relation franco-allemande organisé par le Collège des Bernardins, l'académicien livrait dans l'extrait que nous avons sélectionné quelques réflexions sur l'Europe au micro de Benoît Chantre, président de l'Association pour les recherches mimétiques. Face aux problématiques environnementales ou encore religieuses, René Girard a rappelé, je cite, qu'avant tout, c'est la solidarité de l'homme sur la planète qui doit être primordiale. Restez à l'écoute de nos émissions sur Canal Académie et n'hésitez pas à télécharger l'entretien de René Girard avec Damien Leguet intitulé « René Girard, anthropologue de la violence et du religieux ».